Je vous le disais dans les titres, la journée internationale des services publics hier qui a mobilisé des centaines de personnes à Bruxelles, l'occasion pour les syndicats d'attirer l'attention sur les manques d'effectifs, la surcharge de travail, les mesures d'économie. Lazaros Goulios, responsable syndical interprofessionnel en charge des travailleuses et des travailleurs sans emploi, notamment CSI de Bruxelles, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors, vous étiez présent hier dans la rue. Et qu'est-ce qui vous a déjà poussé personnellement à rejoindre cette marche, pas comme les autres?
Bien, écoutez, d'abord et avant tout, défendre les services publics le jour de la Journée internationale des services publics, parce que le 23 juin est cette journée-là. C'est important et essentiel parce que on oublie trop souvent que les services publics, c'est une manne financière qui était sortie du marché lorsque on a créé tout cela au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'aujourd'hui, on tente de les démanteler, voire de les privatiser, parce qu'on part du principe que le privé fait mieux. Et d'autre part, il est important de se rappeler que ces services publics sont le capital principalement de celles et ceux qui n'en ont pas, et défendre les collègues qui travaillent dans ces secteurs-là pour défendre d'abord la démocratie et permettre à chacune et chacun d'accéder à des administrations, des hôpitaux, des écoles, des transports en commun. Donc imaginez tout cela gratuit, ce qui est parfaitement possible si on fait l'impasse sur l'austérité comme le gouvernement nous l'impose aujourd'hui.
Alors vous étiez plusieurs centaines de personnes à battre le pavé hier. Comment expliquez-vous cette mobilisation particulière à Bruxelles ?
Oui, écoutez, en fait, nous avons été d'abord surpris et positivement surpris par cet accueil, parce que nous partons en fait de quelques collègues syndicalistes, mais ce sont des associations, mais surtout aussi des citoyens, des citoyennes elles-mêmes, des travailleuses et des travailleurs avec ou sans papier, avec ou sans emploi, qui nous ont rejoints et qui ont conscience aussi que cet élément-là, les services publics, la sécurité sociale, sont importants pour un pays tel que le nôtre, où la démocratie est mise à mal par des membres de notre gouvernement qui s'assied parfois sur la Constitution et l'article 23 plus particulièrement.
Justement, c'est ce que je comprends bien, cet article n'est pas respecté aujourd'hui chez nous.
La dignité au niveau de la Belgique n'est pas respectée clairement. La ministre en charge de l'asile et de la migration, par exemple, refuse d'appliquer des décisions de la Cour constitutionnelle. Et elle le dit. Donc il est important de s'en rendre compte, une ministre se met dans l'illégitimité en refusant d'appliquer des décisions de la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas rien du tout au niveau d'une démocratie. Un gouvernement, me semble-t-il, devrait s'imposer la démocratie et suivre de la ligne légitime à tout le moins.
Alors, dans le détail, plus concrètement, les coupes budgétaires touchent pas mal de secteurs. Quels sont, disons, les services les plus menacés, selon vous?
Mais écoutez, regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Molenbeek, la commune la plus impactée par les exclusions du chômage, qui a été débuté par le gouvernement de Wever en s'attaquant à cette branche-là de la sécurité sociale. Eh bien, Molenbeek doit se séparer d'un nombre considérable de travailleuses et de travailleurs des administrations et des CPS. Et donc, exclure des personnes du chômage pour les transférer de la solidarité fédérale vers la solidarité communale, qui sont les CPS, c'est déjà agir sur une forme de régionalisation de notre sécurité sociale. Et donc, ce ne sont plus les cotisations sociales des employeurs et des travailleurs qui participent à la sécurité sociale, mais ce sont nos impôts, et singulièrement nos impôts locaux, qui vont soutenir et payer les revenus perçus par les travailleuses et les travailleurs exclus du chômage.
Alors, on entend beaucoup parler du déséquilibre entre les budgets de défense faramineux et les budgets sociaux qui s'amenuisent et qui fondent comme neige au soleil. Comment vous le vivez sur le terrain ?
Alors, écoutez, ça c'est terrible, parce que en fait, l'austérité, un prétexte comme un autre. En fait, le gouvernement de Wever nous dit que c'est insurmontable, il faut payer tout cela. Auparavant, et je vous invite, et j'invite nos auditeurs et auditrices à aller lire un article sur Econosphère, auparavant, en fait, les dépenses publiques étaient admises et permises dans les années 60, 70, où on se permettait de faire cela et ça n'avait pas d'incidence. Aujourd'hui, on nous dit c'est un mur infranchissable et on considère que l'État est comme un ménage. Vous et moi, notre ménage peut partir en déconfiture. Une entreprise peut tomber en faillite. Un État, ça n'arrive normalement pas. En tout cas, en économie, certains contestent ce genre de choses, dont Sandra Lucbert, qui le dit très certainement. Alors, donc les services les plus impactés, ce sont les services publics, les politiques sociales, et de l'argent, il y en a, puisque le ministère de la guerre, permettez-moi de le dire tel que de la sorte, a reçu 15 milliards d'euros pour acheter des F-35. 15 milliards d'euros, c'est 25 écoles. 25 écoles, et les enseignants se manifestent pour démontrer que tout cela, il est possible d'utiliser cet argent à d'autres fins.
Alors, vous travaillez au quotidien avec les plus fragilisés. Disons, quelle situation concrète vous observez depuis l'entrée en vigueur de toutes ces mesures ?
Écoutez, ce qui se passe à Bruxelles singulièrement, c'est le fait qu'on dénie à certains et certaines de garder un droit qui était le chômage auparavant, et on se retrouve exclu. Donc le contrat social a été rompu entre des citoyens et des citoyennes et notre gouvernement. Donc il y a quelque chose en soi qui n'est pas favorable, et donc ça va augmenter la pauvreté des personnes en question. Ça va augmenter la pauvreté singulièrement à Bruxelles, qui est la région la plus impactée de tout cela. 14 communes bruxelloises sont fortement touchées par les exclusions du chômage. La Wallonie par la suite, et la Flandre relativement peu, puisque le chômage y est plus faible.
Mmh. Alors la question aussi des personnes sans papier est aussi au cœur de votre démarche. Quelle est votre position sur justement cet accès aux droits fondamentaux ?
Alors écoutez, une personne qui quitte son territoire pour venir sur un autre territoire ne le fait pas de gaieté de cœur. Elle doit tout abandonner derrière elle. Elle doit parfois abandonner des membres de sa famille, subir des traversées considérables. Qui a envie de mettre son enfant sur un matelas pneumatique, sur un radeau pneumatique pour traverser la Méditerranée se dire que c'est comme si on était en vacances? Personne ne fait ça comme s'il était sur les plages espagnoles ou ailleurs. Donc c'est inadmissible. Un gouvernement doit se permettre de accueillir des personnes qui viennent demander l'asile. Et hier, je rappelle, notre gouvernement a attribué des visas à des Afghans pour vérifier si des personnes d'origine afghane étaient sur notre territoire et comment ils pouvaient les renvoyer vers l'Afghanistan. Ces personnes sont poursuivies par des tribunaux internationaux. Donc l'article 23 de notre Constitution nous impose de vivre dignement à chacune et chacun. Le logement est inviolable normalement. Et on va nous imposer des visites domiciliaires singulièrement à ces personnes-là aussi. Et donc, nous, ce que nous imposons à ce gouvernement inhumain, c'est l'humanité de notre solidarité.
Alors, des messages ont été portés devant plusieurs cabinets ministériels lors de la marche d'hier. Est-ce que vous avez eu déjà des réponses, des retours, des signaux de la part des personnes et des gouvernements concernés ?
Malheureusement, aucun retour favorable pour l'instant, aucune réponse, aucune présence, le déni.
Politique de l'autruche ?
Alors je ne sais pas si c'est la politique de l'autruche, je pense que les personnes vont arguer toujours de la même chose. En fait, l'austérité c'est nécessaire, c'est incontournable. Les vieilles méthodes de Margaret Thatcher, donc le TINA, there is no alternative. Et donc si on reste ancré dans ce système-là, on n'avancera pas.
Le gouvernement Arizona qui, on l'a compris, directement interpellé lors de cette marche, est-ce que vous avez un message particulier à lui adresser ?
Écoutez, le principal message que nous avons à lui adresser, c'est que les services publics sont nécessaires pour les citoyens et les citoyennes. Je le rappelle, c'est le capital de celles et ceux qui n'en ont pas. Et en même temps, c'est le garant de notre démocratie. Et la démocratie aujourd'hui est essentielle alors que, je rappelle, certains membres du gouvernement ne la suivent pas et s'assoient sur des décisions de justice.
Alors cette marche, c'est selon vous un point de départ ou un point d'aboutissement finalement pour la mobilisation ?
Écoutez, nous avons organisé plusieurs marches déjà l'année dernière et l'année précédente, concernant d'abord les exclus et les exclus. Et ici, c'est une marche supplémentaire et complémentaire. Je pense que la lutte, on sait quand on la débute, on ne sait pas quand on la finit. Et je pense qu'avec ce gouvernement-ci, ça va être très difficile de suspendre tout cela. Surtout, sachant que nous nous plaçons du côté des plus faibles, comme le disait Camus, je crois que ça rend notre combat légitime.
On peut donc imaginer des prochaines étapes organisées et envisagées par les différents syndicats ?
Il est inévitable et très certainement que le mouvement d'action va être poursuivi à la rentrée, très certainement. Aucun des partis politiques ne nous entend, ne veut entendre personne, ni les citoyens, les citoyennes, ni les syndicats, ni aucune organisation, qui que ce soit. Je pense qu'ils s'enferment derrière le fait que leurs décisions sont à appliquer et il n'y a rien d'autre à appliquer que ces décisions-là.
Alors, c'était le constat sans appel de Lazarios Goulios. Je rappelle que vous êtes responsable syndical interprofessionnel en charge des travailleuses et des travailleurs sans emploi, notamment à la CSIL de Bruxelles. Merci pour votre éclairage.
Merci à vous.
Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'Info. À tout de suite.
Le Carrefour de l'Info sur Arabelle.
Et dans votre carrefour de l'information, on ouvre une page santé. Bruxelles organise une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus tout au long du mois de juin en région bruxelloise. L'objectif, c'est de promouvoir le dépistage du HPV, papillomavirus, on en parlera tout à l'heure, responsable de la quasi-totalité des cancers. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Pauline et Victoria de Broussano. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors, avant d'aller peut-être dans le détail, peut-être nous rappeler, nous présenter, qu'est-ce que c'est Broussano?
En fait, Broussano soutient les acteurs social santé de Bruxelles. Et ils ont aussi une partie de prévention de la santé et c'est un peu notre rôle là-dedans.
Mmh. Dans quelle commune vous intervenez essentiellement?
Nous, on travaille pour le bassin nord-est, donc Schaerbeek, Saint-Josse et Evere.
Est-ce qu'il y a un public particulier à qui vous vous adressez ou bien c'est
ouvert
à tout le monde?
Surtout un public plus vulnérable, un public...
Ça dépend aussi les thèmes. On va s'orienter vers un public qui est plus vulnérable en fonction du thème qu'on aborde. Et alors aussi avec, en partenariat avec les professionnels. Toujours.
Mmh. Alors pourquoi avoir, disons, choisi d'aborder le HPV et le cancer du col de l'utérus aujourd'hui?
Donc en fait, 8 personnes sur 10 personnes vont avoir un jour le HPV. Et on voit aussi que les femmes ne font pas assez de dépistage. Donc à Bruxelles, c'est environ 55-60% des femmes qui font le dépistage. Mmh. Et l'OMS dit que l'objectif est 70%.
Alors est-ce qu'il y a manque de sensibilisation particulière sur le sujet à Bruxelles ou bien c'est un sujet encore un petit peu tabou dans certaines communautés?
On voit qu'il est quand même un peu un tabou, que ce n'est pas du tout connu. Mais une fois que les gens connaissent le sujet, ça va beaucoup mieux.
Mmh. Et une réaction?
En fait, on voit que c'est un sujet qui est mal connu, qui a aussi évolué de par la recherche. Et donc, il y a encore des infos dont des personnes ignorent la
Il y a encore du travail à faire et de communication peut-être. Oui. Est-ce que ce sujet concerne uniquement les femmes?
Non, pas du tout. C'est donc pour les femmes et les hommes. Depuis 2019, on vaccine aussi les garçons à l'école pour le HPV parce que l'HPV peut causer des cancers intimes chez les femmes et aussi chez les hommes.
Mmh. Les personnes LGBTQIA+, également concernées?
Alors, tout le monde est concerné, hein, les hommes, les femmes, donc oui. Puisque c'est un virus qui se transmet d'une personne à l'autre, peu importe le sexe et le genre de la personne.
Mmh. Alors, on va parler un petit peu des structures dans notre capitale qui travaillent sur cette thématique avec vous. Vous pouvez peut-être nous en parler, je pense qu'il y en a pas mal, Vivalis, Saint-Soa, Brupev.
Donc Brupev, en fait, ils organisent les dépistages des cancers à Bruxelles. Vivalis fait beaucoup de campagnes sur les cancers et OIS fait plein d'outils sur le HPV. Et Saint-Soa, c'est en fait une structure plus flamande.
Alors, ces collaborations multiples, est-ce que ça permet de toucher plus de personnes, plus de publics différents?
Je pense que chacun a un rôle, donc c'est très important d'avoir des outils qui sont à jour et qui sont faciles à comprendre. Sans outils clairs, c'est difficile d'informer les personnes et qu'elles gardent l'information. Et je pense qu'il y a différents niveaux sur lesquels travailler pour que cette information, tout le monde l'ait, en tout cas à Bruxelles, et en Belgique aussi d'ailleurs. Donc oui, c'est indispensable de travailler avec quasi tout le secteur en fait. Hein.
Alors, on va parler un peu plus concrètement. C'est quoi, en réalité, le cancer du col de l'utérus, pour être plus précis pour nos auditrices et nos auditeurs?
Alors, donc, c'est un cancer, ça va de soi, mais c'est un cancer qui est un petit peu différent. C'est un cancer qui est au niveau de l'utérus, du col, donc du bas de l'utérus. Il est particulier parce qu'il est provoqué à 99% par un virus qui s'appelle le human papillomavirus. Donc, c'est un petit peu différent que les autres cancers qu'on connaît, comme le cancer du sein, par exemple. Donc, c'est quasi toujours le virus qui le provoque. Ce human papillomavirus, il provoque le cancer du col de l'utérus, c'est de ça qu'on parle ce mois-ci, mais il provoque aussi des cancers de l'anus, du pénis et de la gorge. Donc c'est important de le dire, ça provoque des cancers chez les hommes et chez les femmes. C'est donc avec ce virus qu'on peut avoir une évolution vers un cancer, mais pas toujours, puisqu'on peut avoir ce human papillomavirus qui peut, dans 90% des cas, s'éliminer dans 1 à 2 ans. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ça peut évoluer donc vers des petites cellules précancéreuses, des cellules qui changent de la mauvaise façon et qui peuvent évoluer donc vers un cancer.
Alors, combien, on va parler un petit peu chiffres, combien de personnes sont touchées en Belgique et à Bruxelles de manière plus particulière?
Alors, il y a différents chiffres dont on dispose. On parle de l'incidence. Donc, l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas chaque année. Et on voit, par exemple, pour 2023, je vais prendre les chiffres pour Bruxelles, on avait 53 nouveaux cas invasifs et 628 in situ. Je vais expliquer, ce sera plus simple. Mais quand on dit un 53 invasif, c'est un cancer qui est déjà au-delà de l'utérus. Donc, on en a 53. 628 in situ, c'est juste au niveau de l'utérus et pas plus large. Pourquoi on en a plus au niveau juste de l'utérus? Parce qu'en fait, on dépiste de plus en plus tôt. Et donc, heureusement, on les détecte plus tôt qu'un stade où on est déjà un stade invasif, justement.
Justement, quels sont les symptômes auxquels il faut faire attention?
Alors, dans le cas où on a le human papillomavirus, il n'y a pas de symptômes au début. C'est pour ça qu'on conseille les dépistages, mais on en reparlera après. Dans le cas où on est déjà à un stade avec des lésions précancéreuses, donc des cellules qui mutent pas de la bonne façon, ou à un stade déjà de cancer, on peut avoir des saignements en dehors des règles, des saignements lors des rapports, des douleurs dans le bas du ventre, peut-être des douleurs aussi lors des rapports. Et dans un cas, on est déjà dans un cancer bien installé, on peut avoir de la grosse fatigue comme dans d'autres situations de cancer, en fait.
Alors, le dépistage, c'est important, c'est parfois l'une des clés. C'est pour qui? À partir de quel âge?
Donc, en fait, il y a un dépistage gratuit entre 25 ans et 64 ans. Le dépistage entre 25 ans et 29 ans, on le fait tous les 3 ans. Le dépistage entre 30 ans et 64 ans, on le fait tous les 5 ans pour voir s'il a le HPV, donc le virus.
Alors, concrètement, on parlait du frottis, comment ça se passe? Il faut aller chez son généraliste, un gynécologue obligatoirement?
Donc, c'est important à Bruxelles que les femmes, en fait, ils contactent leur gynécologue eux-mêmes parce qu'ils vont prendre un frottis. C'est aussi important à savoir qu'à Bruxelles, les femmes ne reçoivent pas de lettres d'invitation, donc c'est à les femmes de contacter le gynéco.
Justement, pourquoi certaines personnes évitent parfois le dépistage et comment faire pour les encourager à franchir le pas?
Bon, on voit quand même parfois encore un tabou, ou surtout que les gens ne savent pas l'information. Et donc, je pense, pour encourager les gens, c'est de donner de la bonne information, comme on fait aujourd'hui.
Mm-hmm. Quand le cancer est détecté, quelles sont les options de traitement?
Alors, il y a deux choses à différencier, même trois. Donc, imaginons que je vais chez le gynécologue et qu'on me dit, Victoria, vous avez un human papillomavirus. Oui. À ce stade-là, le gynécologue, il n'y a pas de médicament, il ne va rien faire de spécifique. Il va attendre l'année d'après de revoir la personne pour voir si ça évolue ou non. Je le rappelle, 80% des femmes auront ou ont eu un papillomavirus au cours de leur vie. Donc c'est 8 femmes sur 10, c'est énorme.
C'est énorme.
Donc c'est très courant, c'est pas rare, c'est pour ça qu'on en parle aussi, pour que tout le monde le connaisse. Dans 90% des cas, ce human papillomavirus, il va s'éliminer dans les 1 à 2 ans. Tant mieux, c'est le système immunitaire qui fait le travail. Si c'est pas le cas, le human papillomavirus, il reste, les cellules commencent à changer. Dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. S'il y a des cellules précancéreuses, ils peuvent décider de couper ou brûler avec un laser les petites cellules cancéreuses ou précancéreuses. C'est une petite intervention qu'on peut faire le jour même au ressort. C'est pas une grosse intervention. Et puis on vérifie si les cellules qui reviennent sont OK ou pas. Et on fait en fonction. Si on le découvre plus tard à un stade où c'est déjà un cancer quand même bien installé, là, on va partir sur des traitements comme pour d'autres cancers. On peut avoir une ablation de l'utérus quand on a déjà un stade très avancé. On peut aussi avoir une chimiothérapie, l'immunothérapie, donc ça, c'est des médicaments, ou la radiothérapie avec des ondes.
Alors, on parle du HPV, du cancer du col l'utérus. Quel est, disons, le lien entre les deux, finalement?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'on voit que c'est assez confiant en général. Donc, il y a le virus. Ce virus, on peut l'attraper. C'est un virus qui se donne d'une personne à l'autre. J'expliquerai après comment. Mais donc, ce virus-là, on peut l'avoir et par la suite ne rien développer. On peut aussi avoir, malheureusement, après un an, deux ans, des cellules cancéreuses qui arrivent. Et donc, ce cancer-là, du col de l'utérus, il ne va jamais arriver tout seul. Donc, il faut qu'il y ait ce virus pour qu'il y ait ce cancer dans 99% des cas, ce qui est quand même énorme. Mais le human papillomavirus, il y a 200 sortes, donc ça fait beaucoup. Dans ces 200, il y en a 12 qui sont plus à risque de provoquer des cancers, dont le plus connu, c'est le HPV 16 et le HPV 18. Et puis, il y a aussi des HPV qui peuvent donner des petites verrues. Bon, ça, en général, on le voit, mais ce n'est pas ceux qui provoquent des cancers. Donc ça, on en parle un petit peu moins.
Alors, est-ce qu'on peut savoir si on est porteur du HPV sans se faire dépister pour autant?
Alors non, c'est pour ça qu'on fait cette campagne. Si on a le HPV, donc pas encore de cellules précancéreuses ou de cancer, il n'y a pas de symptômes en tant que tel, à part, comme je disais, celui qui provoque des petites verrues, mais on ne parle pas de celui-là aujourd'hui. Donc je pourrais très bien être porteur et ne pas le savoir, le transmettre à d'autres personnes au passage, et si je ne me fais pas dépister, le découvrir un peu plus tard quand c'est déjà peut-être problématique. Donc l'idée, c'est quand même de le savoir en faisant des dépistages.
Alors dans la plupart des cas, le corps, vous l'avez dit, élimine le virus, parfois seul. Alors pourquoi s'inquiéter finalement?
Alors, donc dans 90% des cas, effectivement, en un an à deux ans, le corps l'élimine, et tant mieux. Mais ça veut quand même dire, premièrement, qu'on est porteur, donc c'est quand même pas mal de le savoir pour le ou la partenaire, s'il y en a un. Ça, c'est une première chose. Et puis, pour le tenir à l'œil, parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir donner un médicament pour supprimer le virus. Mais ça permet de se dire, dans un an, on voit ce qu'il en est. Est-ce que les cellules sont en train de changer? Est-ce qu'elles évoluent? Et si c'est le cas, d'agir à temps, parce qu'on enlève juste les petites cellules problématiques et on est bon. Si on ne le fait pas, parce qu'on se dit, j'ai pas de symptômes, moi, je pense que j'ai rien, les années passent, on arrive à des stades où on arrive à un cancer qui est quand même vraiment problématique. Donc, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de faire les choses en amont, si possible.
Alors, on va parler de deux choses à présent, le préservatif et le vaccin. On va commencer par le préservatif. Est-ce qu'il protège contre le HPV?
Alors, en partie, parce que, donc, par rapport au HPV, c'est important d'expliquer comment il se transmet. Il se transmet par les muqueuses. Donc, si on ne sait pas ce que c'est les muqueuses, la peau, ça tout le monde connaît. Les muqueuses, c'est une peau qui est un petit peu plus humide et un peu plus perméable. C'est la peau typiquement qu'on peut avoir, enfin les muqueuses qu'on peut avoir dans la gorge, au niveau du pénis, de l'anus ou du vagin. Et c'est une peau qui est perméable. Ce HPV, il se transmet d'un contact d'une peau comme ça à une peau comme ça. Donc, ça peut être de par un rapport sexuel avec pénétration, mais ça peut aussi être de par des préliminaires. C'est important, parce qu'on a eu beaucoup la question, de différencier ça de, par exemple, le sida. Le sida, en général, ça se transmet avec les fluides comme le sang, le sperme ou autre. Ici, ce n'est pas le cas, c'est vraiment un contact de peau à peau. Donc, quand on met un préservatif, il y a une grosse partie qui est protégée, mais pas tout. Et donc, c'est important de dire qu'en fait, il peut passer quand même, surtout lors de préliminaires.
Voilà. Le vaccin, à présent, contre le HPV, à qui s'adresse-t-il et à quel âge, finalement, il faut le faire?
Donc, comme on a déjà dit, on a parlé de dépistage chez les gynécos. On a aussi, en fait, le vaccin HPV. Normalement, le vaccin HPV, on le reçoit à l'école gratuit entre 12 et 14 ans. Quand vous ne l'avez pas reçu à l'école, vous pouvez aller vers 15 ans, aller chez le médecin généraliste, demander une prescription au médecin et aller en pharmacie. Et donc, entre 15 ans et 30 ans, les trois doses du vaccin coûtent 38 euros environ. Après 30 ans, les trois doses coûtent 300 euros. Donc, c'est vraiment important, en fait, d'aller chercher le vaccin avant les 30 ans. Donc, la loi a changé maintenant en juin 2026, que c'est donc que 38 euros et ne plus 300 euros avant 30 ans.
Alors justement, à partir de ce mois, je pense qu'il y a du nouveau concernant le remboursement du vaccin. Est-ce qu'on peut nous expliquer?
Donc, on ne paye que 38 euros en pharmacie. Ouais. Et en fait, la mutuelle prend tout le reste en charge.
Les tickets modérateurs, etc.
Oui, en fait, ils ont décidé de prolonger le remboursement jusqu'à 30 ans parce qu'il y a toute une génération qui n'a pas bénéficié du vaccin. Oui. Et même si les vaccins dans l'école... Tout le monde, tous les parents n'acceptent pas encore ce vaccin parce que la maladie est très mal connue, donc le HPV, et le vaccin est parfois un petit peu contesté alors que c'est un vaccin qui fonctionne très bien.
Alors Pauline et Victoria, certains parents hésitent quand même à vacciner leurs enfants. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre?
Selon l'OMS, les vaccins comptent parmi les interventions médicales les plus sûres et les plus étudiées. Ça dure aussi avant que les vaccins viennent sur le marché, donc ça, allez, c'est vraiment fiable.
Mmh. Oui, c'est un vaccin qui est là depuis des années. Déjà, le Gardasil, il est là depuis plus de 10 ans. Il a déjà été fait dans 74 pays. Il y a des millions de doses qui ont été données. Mais voilà, encore une fois, il est juste très, très mal connu. Et je pense qu'au plus les personnes vont comprendre comment ça fonctionne, au plus elles vont avoir des informations pour prendre des décisions en faveur de ce vaccin, si elles estiment que c'est...
Alors, deux petites questions pratiques, peut-être avant de nous quitter. Vers quelle structure on peut orienter les personnes qui souhaitent, qui veulent se faire dépister ou vacciner, à qui s'adresser?
Si vous avez plus d'infos, besoin, vous pouvez toujours regarder sur le site de BruPrev pour regarder sur les dépistages. Et pour le vaccin HPV, vous pouvez juste demander à votre médecin traitant plus d'infos.
Encore une petite chose, il y a le dépistage tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Ça n'empêche pas qu'on conseille quand même aux femmes de voir au moins chaque année ou tous les 2 ans en accord avec le gynécologue un spécialiste, donc un gynécologue, et que le gynécologue, ça doit être un partenaire de santé sur du long terme. On voit dans les âges quand même que les femmes vont souvent chez le gynécologue juste avant de faire des enfants, quand elles sont enceintes et juste après, et qu'après, une fois que la vie est un peu installée, elles n'y vont plus. Alors que c'est vraiment là-dessus qu'on essaie d'insister, c'est-à-dire il faut y aller tout au long de la vie, pas que par rapport au cancer, mais parce que voilà, il faut un spécialiste.
Alors cette question, ce sujet est tabou pour beaucoup de femmes. Comment justement briser ce tabou autour de ce sujet au quotidien?
Je pense parler ensemble de ce sujet.
Oui, en fait, on parlait parfois en petits groupes, c'est plus facile quand on est avec un groupe de femmes, mais on rappelle quand même que ça concerne les hommes aussi. Le vaccin, il est pour les femmes et les hommes. enfants, garçons et filles aussi. Alors les dépistages sont organisés pour les femmes, donc on reste dans une image très féminine du HPV, alors qu'en fait ça concerne vraiment toute la population. Donc c'est aussi ça, c'est s'adresser aux femmes, s'adresser aux hommes, et expliquer un petit peu ce que chacun peut faire actuellement, en tout cas pour se protéger ou pour protéger
les autres. Je pense aussi surtout retenir que le HPV peut causer le cancer intime chez la femme et chez les hommes. Et donc voilà.
On a vu quand même au cours du mois, on a eu des échanges très intéressants. En fait, on part du principe que c'est un sujet tabou, mais c'est surtout une question de pudeur. Et en général, quand on est en petit groupe, en fait, ça se passe très très bien. Les gens sont très intéressés, que ce soit les femmes ou les hommes. Et bah, on a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas bien le sujet, des hommes qui ignoraient complètement le sujet aussi. Et on voit qu'il y a un réel intérêt, tant pour eux-mêmes que pour leurs partenaires, parfois. Donc voilà, je pense que c'est aussi prendre la peine et y dédier du temps, comme on le fait maintenant et ce mois-ci. C'est de donner une place à ce sujet pour que ça devienne connu, comme le cancer du sein, par exemple, qui est un petit peu plus connu de tous.
Voilà, c'était la conclusion de Victoria. Elle était également avec nous, Pauline de Brussano. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour partager un petit peu tous les détails de cette campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de votre Carrefour de l'Info.